Mais il connaît pas Raoul, ce mec. Il va avoir un réveil pénible.
Les tontons.
J'ai décidé de dissoudre l'Assemblée nationale.
Oh merde!
Les tontons.
La France est un des rares pays au monde à n'avoir jamais cédé à la tentation totalitaire.
Flingue.
L'ironie du primate. Humour Louis-Philippard. Le sarcasme prudamesque. Mais vos opinions sur la musique moderne et sur l'art en général, je vous conseille de ne les utiliser qu'en suppositoire. Voilà, et encore pour enfants.
Oh, ça va atomiser. C'est l'émission des tontons flingueurs.
Voilà, on aime toujours vous dire bonjour avec ce mot de bienvenue, ta gueule. On aurait pu trouver plus sympathique, ça changera peut-être un jour, Gilles.
Bonjour, bonjour.
Salut, vous êtes sur les tontons.
bonjour
Marie, notre nièce, elle est là, et la oui. Nièce de Paris. Ça va Marie?
La patate.
Oh mais oui, par rapport à la semaine dernière, je sens que ça va être un grand
ça
moment.
Un grand moment.
De solitude. Bonjour à toutes
si
et à
vous aviez l'image, vous verriez, ils sont dans un état pitoyable.
Quoi, il va faire croire. Alors tu vois, il commence bien. Il va essayer de faire croire dans un premier temps que les gens qui font cette émission sont délabrés.
tout ça pour
expliquer quand même, parce que tout le monde connaît son grand âge.
Ouais. Voilà. Alors qu'on est frais comme des roses.
Il faut absolument qu'il me rappelle
des choses agréables.
Ma retraite, tout ça. C'est toujours vachement sympa. Merci.
En parlant de retraite, on remercie Philippe à la technique qui est accompagné de charmantes stagiaires. J'ai encore me faire engueuler, moi. Bon, vous êtes bien sur les tontons. On est en direct. On est jeudi matin. Il est 10h pétante. Si vous réécoutez à 19h, tant pis pour vous. Mais enfin, pour ce matin, tout au moins, vous pouvez nous téléphoner, réagir. 05 65 49 29 94. On va tout de suite, on va envoyer le sommaire. Allez.
Moi, quand on m'en fait trop, je correctionne plus. Je dynamite. Je disperse. Je ventile.
Alors, ventilons donc en deuxième partie d'émission et on vous encourage encore une fois à nous téléphoner. Ça va être un débat qu'on vous propose un petit peu chaud. On assiste actuellement à une espèce de respectabilisation, si on peut utiliser ce terme, du Front National en France. Alors évidemment, la seule question qui se pose, est-ce que c'est juste, on va dire, un risque de vote de posture, c'est-à-dire que les gens vont se défouler, ils vont voter pour eux, ou est-ce que, selon certains paramètres, ils auraient une possibilité plus sérieuse aujourd'hui d'arriver au deuxième tour, mais pas tellement comme Le Pen il y a quelques années, d'une façon plus respectable, on disait. Alors qu'est-ce qui manque au Front National aujourd'hui? Qu'est-ce qu'ils sont en train de mettre en place dans leur communication? On va vous proposer un petit débat autour de ça, pour comprendre que les choses ne sont pas si simples.
Ça plombe l'ambiance, brusquement, je sais pas,
simple,
comme
là.
Ça, tu vois.
Ouais, les choses ne sont pas si simples, tant pis, c'est un sujet qu'on a envie d'aborder. On en a parlé hier, faites pas les faux culs, vous étiez à la conférence de rédaction. Et
autour d'une bonne bouteille d'ailleurs.
Voilà, ça y est, en plus, il nous grille.
Je balance.
Ça manque de gnôle, bon, c'est un peu tôt quand même.
Marie, tu vas nous mettre vraiment une sale image, finalement. Tout de suite, on va commencer par du beaucoup plus light, puisque Gilles aime bien les choses light. Gilles, tu nous as trouvé un titre très sympa, Areva, tous ceux qui vont sortir du nucléaire.
Voilà, c'est la preuve qu'on peut sortir du nucléaire. Si, c'est un petit dessin. Dans le Canard enchaîné d'hier, le plan de licenciement chez Areva. Cette magnifique entreprise, le fleuron de la France, etc., que notre président a essayé de vendre dans le monde entier, avec un peu de peine, il faut le dire. Mais enfin, on est arrivé peut-être avec quelques contrats supposés, etc., à le fourguer. Toujours est-il que ça coûte cher.
Et qu'on
s'aperçoit qu'ils sont dans le rouge, figurez-vous. Areva, ce joli nom. Moi, je dis toujours, avant, il s'appelait la Cogema. Ça faisait moins... C'était plus bureaucratique.
Alors que là, c'est Manureva,
Areva,
quoi.
Ça y est, c'est la Vainée, c'est les îles.
On attend la musique, quoi.
Voilà, on attend exactement. Eh bien, non. Et Areva a dépensé un peu trop d'argent. Il faut dire que Madame Lauvergeon, peut-être, a fait des investissements.
C'était son côté de gauche, ça, Gilles, tu vois.
Non, mais absolument. Mais elle a investi, notamment à l'époque, dans des mines au Canada, figurez-vous. Et ça a été le grand planton. C'est-à-dire que ce qui valait une certaine somme à l'époque ne vaut plus rien du tout maintenant. Alors c'est des mines, c'est une société minière canadienne qui a des mines un petit peu partout en Afrique, notamment. Alors on apprend que l'indépendance énergétique de la France dépend de la Namibie, de la Centrafrique,
quatrième exportateur d'uranium, la Namibie,
la France. Sauf qu'ils ont cru faire une très très bonne affaire en achetant cette entreprise minière canadienne et qui se sont plantés. Beaucoup, hein. 1,8 milliard quand même. Hein.
Ça fait, c'est une grosse erreur. Ça,
voilà, voilà, grosse erreur. Et puis que l'EPR, le fameux EPR qui devrait être le futur.
Le parti républicain.
Non, 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 non. Ce fameux, cette fameuse centrale nucléaire magnifique qui on met un gravier dedans et ça marche pendant 20 ans. C'est vraiment la grosse arnaque parce qu'on l'a vendue à la Finlande 2,5 milliards, je crois, et c'est en train de coûter dans les 6 milliards, quoi. Qui paye la différence? Je suppose que c'est nous.
Là, je suis pas d'accord. Toi, tu as l'air de dire à chaque fois, on amène ça comme un fait, oh là là, ça coûte plus cher que prévu. Moi, je crois que c'est beaucoup plus subtil que ça. Les mecs, ils savent au départ combien ça va coûter, mais ils annoncent toujours beaucoup, beaucoup moins cher parce que sinon, les projets ne peuvent pas être votés. C'est devenu une espèce de jeu pour un grand nombre de politiques ou d'industriels.
C'est pas un jeu, c'est une arnaque.
Ben oui, mais bien sûr que c'est une arnaque, bien sûr, ça va coûter 2 milliards. Tu parles, les mecs, ils savent très bien que ça va coûter beaucoup plus. De toute manière, ils ont déjà prévu depuis belle lurette que le chantier devait durer un certain nombre de temps et rapporter un certain nombre de fric à eux et aux copains. Donc,
voilà, alors cette entreprise qui devait être vraiment notre gloire française, eh bien, le président du directoire d'Areva, M. Luc Courcel, pour ne pas le nommer, tout ça vient source internet, hein, lundi 12 décembre, ils viennent de voter un plan d'économie drastique et ils vont mettre des gens... Alors, ils ont dit qu'ils n'allaient pas virer des gens, mais ils ne vont pas renouveler des postes qui vont partir d'eux-mêmes, des gens qui sont plus contents dans le nucléaire, qui culpabilisent et tout, qui vont partir d'eux-mêmes. On va peut-être même un petit peu les aider. Et puis, ceux qui vont partir à la retraite ne seront pas remplacés. Alors, c'est la grande technique actuelle, c'est-à-dire qu'on ne licencie pas, mais on ne remplace pas les gens qui partent. Ça veut dire que les gens qui sont en place doivent bosser deux fois plus. Vous avez compris le truc,
bah, bien sûr, évidemment, évidemment. Voilà. Travailler plus pour gagner plus.
Voilà, débrouillez-vous donc avec tout ça. Bref, c'est la preuve qu'on peut sortir du nucléaire, en tout cas pour tous ceux qui ne seront pas remplacés.
Et selon les études d'ailleurs, pour préciser ton exposé, Gilles, c'est que actuellement, sortir du nucléaire crée probablement plus d'emplois qu'ils n'en supprimeraient dans la filière
nucléaire. C'est ce que disent les Verts, hein. C'est ce
à
que
vérifier,
disent les partis écolos.
Que chacun étudie ça, c'est important.
Que les nouvelles filières de l'énergie, des énergies douces ou des énergies renouvelables seraient créatrices d'emplois. Moi, j'en suis persuadé, mais enfin bon, ça reste, tout ça reste à prouver. Les Allemands vont nous faire la preuve, ce qui fait que la France aura 30 ans de retard.
Non, mais attendez, les Allemands. Les Allemands, arrêtons avec les Allemands, quoi. Les Allemands vont nous faire la preuve. C'est pas un pays d'énergie renouvelable, l'Allemagne, quoi. C'est une cochonnerie industrielle.
Ah non,
l'Allemagne,
ils arrêtent le nucléaire et ils reprennent plein pot sur le
charbon.
Sur le charbon.
Donc, on arrête de nous tanner avec le modèle allemand, quoi.
Bande de germanophobes.
Ça nous fait une superbe liaison.
J'aime beaucoup, mais Verheiten so spät durch Nacht und Wind, das ist der Vater an seinem Kind.
Ah, das ist klar.
Vous avez vu comme c'est une langue radiophonique.
Ich bin ein Meloman. Excusez-moi, ça m'a fait beaucoup rire cette publicité. Je ne ris plus beaucoup.
Mais tu bosserais pas dans la pub, toi, par hasard? Parce que t'arrêtes pas de parler de pub, c'est frais, c'est
moi,
impressionnant. Ah ouais, ouais, la semaine dernière, tu voulais faire une émission spéciale.
Les bagnoles françaises.
Vu, la bagnole Renault, là, ça m'a
les
fait beaucoup
rire. Les bagnoles
françaises,
oui.
On va, c'est le sujet d'après, mais on parlait d'énergie, donc on va essayer d'être un petit peu dans l'ordre quand même. Bonne perche.
Le chef d'orchestre.
Ah ouais, ouais, c'est un métier, hein. Bonne pioche, l'énergie. On parle pas trop souvent de notre dépendance par rapport à l'énergie qui vient de Russie, et on comprend donc un petit peu mieux par les temps qui courent pourquoi Poutine, d'un côté on lui dit oh là là c'est pas bien, pas démocratique ton élection, et puis de l'autre côté quand même on dit à Poutine si tu pouvais arrêter de nous foutre le veto en Syrie ce serait pas mal, parce que pendant ce temps là prioritairement on négocie le prix du gaz, et le gaz chez nous en l'occurrence il va donc augmenter une fois de plus.
Non mais t'as remarqué qu'il y a plein de gens dans la rue à Moscou et qui leur slogan c'est tu nous rases Poutine.
Oh là, on craignait le pire, on avait raison, hein. Bon, l'augmentation du prix du gaz, combien de dégâts?
4-4.
Ouh là là,
4-4.
Non, mais ils avaient dit...
C'est fait exprès.
Ouais,
oui,
ça va vite.
Oui,
puissant.
C'est comme les bagnoles. Non, mais ils avaient dit, c'est une honte, pas plus de 10%. Et en fait, ça sera 4,5 ou un truc comme ça. C'est toujours la même technique. On va vous couper le bras, Puis à la fin, on vous coupe le petit doigt. Alors, on s'en sort bien, quoi. Hein. Mais moi, j'ai fait mettre le gaz il y a 10 ans parce que c'était une énergie relativement propre,
moins cher que l'électricité,
pas chère,
tout au moins,
etc.
Ouais.
Et à l'époque, comme les dealers, ils nous ont appâtés. Ils ont tout fait gratuitement, la duc du gaz à Saint-Afrique, ils avaient fait tout un truc, même la radio avait suivi cette opération là, voilà, c'était tout gratos, c'était merveilleux, c'était le... depuis 200% au moins d'augmentation.
Ouais, mais ouais. Hein, et quand on se fait appâter, on termine toujours dans l'apathie.
Exactement, et on est accro. On est accro au gaz.
Non, mais c'est pour ça en ce moment, et c'est pour ça où tu t'es fait avoir avec le gaz. Beaucoup de gens se sont fait avoir avec les convecteurs, bien sûr, à l'époque.
Et maintenant, c'est le bois. Hein.
Et maintenant, le bois, pas tellement sponsorisé, mais les énergies renouvelables à toutes les sauces, le bâtiment, le bâtiment BBC, tout ça. Donc, pour ceux qui... voilà, ça fait juste 40 ans qu'on se fait avoir, donc c'est bien, continuer à acheter les trucs sponsorisés par le gouvernement, c'est tout à fait fiable.
Tu dis le bois, pas tellement. Moi, je peux te raconter l'anecdote d'un ami qui a monté une chaudière à granules. Il se reconnaîtra s'il écoute cette antenne et qui a vu passer le prix du galet de 100% d'une année sur l'autre. T'inquiète pas que la spéculation, c'est sur l'ensemble des énergies.
Il t'accroche, c'est une technique de dealer. Dans une société de toxicomanes et de dealers, il faut le savoir.
On parlait de décroissance beaucoup hier pendant la préparation de cette émission. C'est une telle évidence que et les problèmes environnementaux, les problèmes de survie, tout simplement, sont intégralement rattachés à notre capacité à baisser notre consommation d'énergie ou pas. Et pour baisser notre consommation d'énergie, on ne peut pas le faire dans une situation de croissance. Il y a un moment où les gens, il va falloir qu'ils comprennent ça. C'est quelque chose de, sans faire le professeur, là-dessus, d'une évidence absolue. Il n'y a pas de croissance sans énergie. Et donc, la quête à la croissance permanente, c'est donc la quête énergétique. Tu parlais tout à l'heure de la Namibie. Il y a eu, il y a quelques jours sur Arte, un excellent téléfilm, j'espère que nombre d'entre vous l'ont vu, qui sous-entendait, bon, d'une façon filmique, comment ça avait pu se passer avec les otages, en Afrique.
Il y a la filmitude d'après. Le filmique et la filmitude.
Ça existe, la notion de
non, non, mais
la filmication, enfin tout ça. Quoi.
On appelle d'une idée filmique une idée...
Vas-y, accouche.
Petite précision. Alors, Maître Capello, on appelle une idée filmique, c'est intéressant, une idée où justement pour la radio, c'est très important, où vous êtes capable, quand on vous parle, de mettre la caméra en fermant les yeux, vous seriez capable de mettre la caméra immédiatement à un endroit parce que l'explication est suffisamment claire pour qu'on ait à la fois le contenu, la forme et la situation. Mmh. C'est ça une idée filmique.
Ça, voilà. C'est un pro qui parle.
C'est une idée, ce qu'on appelle une idée filmique.
Vous avez alors, une idée filmique à la radio, c'est chiant, hein. Je vais vous dire tout de suite.
Et bien, justement,
non. Faire passer une idée filmique à la radio, tu vas nous mimer donc l'idée filmique tout de suite.
Non, je vais te donner un exemple concret, puis on changera de sujet après parce que je suis sûr que ça intéresse plein de gens ce qu'on est en train de raconter. Vous prenez un inspecteur de police, le vieux vient d'être arrêté.
Ah non, on le prend pas, non.
Alors, je vais vous faire un exemple. Un vieux, prenons un exemple. Un vieux vient d'être arrêté par la police, il a eu un accident de tracteur, il est donc au commissariat où il est interrogé. Ça, c'est une idée non filmique. L'idée filmique, c'était sur le bureau, l'inspecteur était assis au coin gauche, son pied se balançait lentement et venait entrechoquer la jambe du vieillard, dont la couleur de peau changeait progressivement au fur et à mesure de l'interrogatoire. On est capable de mettre une caméra et d'imaginer la scène. Ça, c'est une idée filmique. Voilà.
Wow.
Bien, t'es chaud quand même, hein,
à fond,
comme ça.
C'est...
Oh la vache.
Bon. Alors, on revient à l'Afrique. Donc, ce documentaire sur l'Afrique d'Arte était passionnant parce qu'il sous-entendait ce qui avait pu se passer, et à mon avis ce qui s'est passé, parce qu'il faut lire entre les lignes, c'est génial. On va négocier des énergies là-bas. On retourne les gouvernements successifs en fonction de leur capacité.
Oui, au besoin, on envoie quelques mercenaires pour aider.
Voilà, à nous aider ou pas au niveau énergétique. On l'a vu évidemment avec Elf au Gabon et ainsi de suite pendant des années. Tout le monde fait ça, hein, les Américains, ainsi de suite. C'est pas simplement la France.
Ah, les Chinois aussi, oui.
Par contre, ce que sous-entendait ce téléfilm magnifique, c'était que les otages, en réalité, étaient pris volontairement en otage par soi-disant des groupuscules, alors qu'en réalité, ils étaient pris en otage d'une façon contrôlée par les fameux gouvernements qui n'aimaient pas qu'on intervienne de plus en plus dans leurs affaires. Et ça se faisait comme par hasard systématiquement au moment des négociations sur l'énergie.
Voilà, les otages sont des éléments de négociation.
Des éléments de négociation sur les contrats énergétiques. Terrible. Et ce que sous-entendait ce téléfilm, c'était qu'on était en train de renégocier un contrat justement sur de l'uranium. Et que les contrats sur l'uranium, ça se passait pas bien du tout. Les mecs, ils voulaient multiplier par deux les coûts. On leur a dit non, mais attendez, la France, ça fait 30 ans qu'on vous achète. Ils ont dit, mais attendez, maintenant, il y a les Chinois, il y a les Russes, la France, RAF.
Ça s'est passé au Niger.
Et voilà, et ce téléfilm, c'était ça, c'était magnifique. Fin de l'anecdote sur l'énergie.
D'ailleurs, EDF a acheté l'année dernière, ou en tout cas voulait acheter des mines d'uranium.
Oui, évidemment.
Ils l'ont fait,
C'est l'indépendance énergétique de la France.
Voilà, c'est le fameux truc sur le nucléaire où nous sommes autonomes avec le nucléaire.
C'est fabuleux. On a une petite pensée quand même émue pour les quatre otages qui sont toujours coincés dans un coin de désert. Ouais. Ils ont été pris par l'ACMI, Al-Qaïda au Maghreb.
Il doit y avoir une négociation.
Avec probablement la complicité des populations, sinon du gouvernement en question.
Il y a sûrement des négociations en cours là-bas. Sans parler des deux barbous qui se sont fait arrêter.
Ah mais ça c'est le risque du métier, ça c'est différent. Que des gens de la DGSE se fassent stopper, ça, ma foi, ils avaient qu'à bien faire leur boulot. Hein. Franchement, je connais un peu le coin là-bas, c'était un blanc est repéré comme une mouche sur une motte de beurre, tu vois. Ils se sont fait choper dans un endroit où t'as trois blancs au mètre carré et encore, je suis gentil, quelques touristes, donc c'est très très facile à faire le tour. Et quand on voit deux mecs d'un...
avec un certain âge, un certain look, etc., qui ont un boulot un peu bidon, on voit très très vite à qui on a affaire. Mmh. Et voilà, et ils se sont fait toper, et, hein, ils ne sont pas prêts de sortir, à mon avis.
Non, là, ils ont... bon, il va y avoir des négociations, et bien évidemment, nous vous rassurons, l'État français ne paiera pas de rançon.
Mais non, jamais, bien jamais. Entendu. Hein.
Pourquoi tu fais ça, Philippe? Oui, on avait dit déjà merci, Philippe, à la technique. Bon, on lui redit, c'est pas grave, allez. 05 65 49 29 94, encore
c'est
un petit
téléphone,
quart d'heure.
Appelez, s'il vous plaît.
Encore un petit quart d'heure avant la ZIC. On va continuer sur du sujet plus local. On va s'intéresser, entre autres, pas mal à l'abattoir de Sainte-Afrique, il s'y passe des choses.
C'est dans le journal.
Ah, c'est dans le journal, alors allez, vas-y, on prend le journal.
Je sais pas, est-ce que vous êtes au courant de cette histoire-là?
Pas du tout, moi.
Pas du tout.
Bah, moi,
alors,
non plus,
Marie,
non.
Je peux vous dire que l'abattoir de Sainte-Afrique fait parler et couler de l'encre depuis plus de 30 ans.
Non, c'est pas de l'encre qui fait couler l'abattoir.
Aussi,
hein.
Du sang, oui, bien entendu. Bien entendu. Et non, mais moi, je suis arrivé dans la région il y a une trentaine d'années. On parlait déjà, c'est catastrophique, on va fermer l'abattoir de Sainte-Afrique, etc. Et il y a eu, ça a été des arguments, des otages au niveau des élections. Hein. L'abattoir était vraiment un enjeu très, très fort. Et puis, ça avait remonté, redescendu, remonté. Et puis là, on en entendait plus trop parler. Et bingo, dans le Midi Libre, aujourd'hui, eh bien, on s'aperçoit que si l'abattoir de Sainte-Afrique n'est pas rénové, si on ne le remet pas aux normes, mais c'est toujours le même truc. Alors, je sais pas à chaque fois quelles normes ils mettent, mais on n'est jamais dans la bonne norme, quoi.
C'est normes européennes, on imagine.
Voilà, mais c'était déjà le cas il y a 30 ans, puis il y a 20 ans, et puis etc. Et là, il faut absolument faire des travaux dedans, cher, bien entendu. Sinon, bah, il va fermer et ça va être une cata parce que l'abattoir le plus proche, c'est à Rodez et il est déjà archi-saturé, quoi. Ouais. Donc, gentiment, la communauté de communes de Millau et de ses environs vient soutenir l'abattoir de Sainte-Afrique à hauteur de 50 000 euros.
C'est pas une société privée, ça
Alors, c'est moitié-moitié, c'est moite-moite. Hein. C'est toujours ces montages où, alors j'ai même les chiffres, hein. La communauté de communes de Sainte-Afrique est partie prenante à hauteur de 250 500 euros sur un capital social de 500 000 euros. C'est-à-dire qu'ils ont tout juste la moitié, un petit peu plus.
Plus un ou moins un? Plus un, la moitié plus un.
Plus un, d'accord. Voilà. Et donc, bah, c'est vrai que 50 000 euros en plus, ça va faire du bien, mais enfin, c'est une goutte d'eau un petit peu dans cette histoire. Et c'est l'entreprise Perrotte qui gère l'abattoir et qui emploie quand même une trentaine de salariés.
Et ouais.
C'est important dans le coin, mais Guillaume Bernardo, le journaliste qui a fait cet article dans le Midi Libre aujourd'hui, sous-entend que ça pourrait, conditionnel, être un renvoi d'ascenseur à son collègue de Sainte-Afrique, entre socialistes, peut-être se filer un petit coup de main.
Non, ils ne sont pas comme ça. Écoute,
non, Guy Durand, d'ailleurs, a démenti totalement. Hein, il s'est défendu. Donc, quand on connaît l'oiseau, on peut imaginer.
Qu'est-ce qu'un abattoir peut rendre comme service exactement? Comme renvoi d'ascenseur, je me demande bien.
Mais si, parce que c'est un. Au niveau de l'économie du Sud-Aveyron en général, c'est-à-dire Millau, Sainte-Afrique, on est, qu'on le veuille ou non, même si les Millavois et les Sainte-Africains se sont foutus sur la gueule depuis les Gaulois, il y a toujours un petit truc. Hein, y a même des chansons rigolotes, méfie-toi des gens de Millau, etc. Tout ça, l'économie du Sud-Aveyron est fortement marqué par la filière agroalimentaire et donc un abattoir est très important, surtout qu'avec ces nouveaux investissements, soi-disant, le volume d'abattage passerait de 2500 tonnes par an à 3000 tonnes par an. Youpi, tralalère. Vous savez qu'on n'a plus le droit d'abattre dans les fermes et tout ça est interdit totalement et ça mange bon si on se fait piquer. Donc c'est un passage obligatoire. Si l'abattoir de Sainte-Afrique ferme, non seulement les 30 emplois, tout ça vont disparaître, mais ça va être une galère monumentale pour tous les éleveurs.
Mais il y a un ensemble de petits abattoirs un peu partout, non? Il n'y a pas un Camarès aussi, quelques-uns?
Mais c'est pas du tout aux normes, etc. Ça, ouais. Ça veut rien dire. Ça a été plus ou moins, enfin, j'ai pas de détails là-dessus, hein, mais avant, il y en avait un petit pour les volailles, tout ça, ça a été fermé, etc. Parce que plus aux normes, plus... Il y a des normes drastiques du fait de l'Europe. Voilà.
Sujet suivant.
Faut pas dire voilà à la fin, mais comme il y avait un blanc.
Non, mais c'était pour voir si t'étais toujours professionnel, Gilles.
Ah, facile.
Voilà, on va passer au sujet suivant au niveau du local. Ça fait évidemment pas loin de 10 ans qu'on nous bassinait avec ce projet de golf au milieu de l'Arzac, au l'Hospitalet précisément. Le sujet avait défrayé la chronique au milieu des années 2000 et puis jusqu'après les municipales de 2008. Depuis 3 ans, on n'en parlait pas trop parce qu'en réalité, il y avait une procédure en cours. Alors, pour vous resituer un petit peu, pour ceux d'entre vous qui auraient raté le sujet, Gilles, tu nous fais un petit retour en arrière, un petit flashback ?
Voilà. Bon, les sources sont internet, mais on avait suivi, Radio Sainte-Afrique avait un petit peu suivi la chose. Il y avait eu moult réunions, etc. Ça avait été un enjeu électoral. Non. Il y a une grosse boîte et puis un maire à l'époque qui avait voulu créer des emplois et puis revitaliser l'Hospitalet du Larzac, attirer du monde, faire une zone de tourisme spéciale. Là, ils appellent ça, je ne sais plus, une ATN ou je ne sais quoi.
Enfin, après le village de Marx, ils veulent faire venir du monde. Le Larzac est bientôt le pôle touristique français, puisque nous sommes numéro un de la destination touristique sur la planète. Nous avons décidé, nous, Aveyron, parce que c'est bon, c'est l'Aveyron, que maintenant l'Aveyron serait, le Larzac particulièrement, la première destination touristique des Chinois et des Japonais, qui viendront partager leurs expériences nucléaires, d'ailleurs, avec les militants du plateau. T'as retrouvé tes notes, Gilles, pendant
UTN,
que
UTN, les unités touristiques nouvelles, ça s'appelle.
Ah, c'est pas naturel, dis donc.
C'est nouvelle, ça vient de sortir. Donc, le projet, en gros, c'est un projet immobilier avec au cœur un golf. Mais un petit golf, hein, 9 trous. Hein. Un petit golf, 9 trous, un parcours compact de 1700 mètres quand même, c'est pas n'importe quoi. Travailler à l'écossaise pour économiser la flotte. Parce que le gros problème là-bas, bien entendu, c'est l'eau. Et on sait que les golfs sont des très très gourmands en flotte.
C'est vrai que l'Écosse est réputée pour sa sécheresse. Hein,
absolument.
On va quand même donner le nom de la société Roltes qui a la maîtrise d'œuvre, qui est promoteur précisément. C'est la société FM Promotion.
Boum boum. Et donc le promoteur nous dit, les techniciens de la société d'aménagement répondent point par point toutes les questions, et vous inquiétez pas, on ne consommera que 150 mètres cubes par jour, soit 30 fois moins qu'un golf de la Grande Motte.
Un dé à coudre.
Oh, voilà. La vache.
Et ce qu'ils disent pas, c'est que bien sûr ils vont faire des résidences de luxe autour, hein, c'est pas fait pour les pauvres et les ouvriers de chez Renault, hein, ça va être quand même pour des gens qui ont un peu les moyens. On se demande d'ailleurs, les gens qui ont un peu les moyens, qu'est-ce qu'ils viendront foutre ici, quoi. Ils ont d'autres lieux, me semble-t-il.
150 mètres cubes, c'est la moitié de la consommation moyenne d'un couple d'adultes sans enfants qui consomme normalement de l'eau. Consommation annuelle d'un couple sans enfants.
Ah oui, annuelle.
150 mètres cubes.
Voilà.
Donc voilà.
Ben oui,
par jour.
Il faut ramener tout ça. Donc c'est beaucoup plus. L'assainissement de toutes ces résidences de touristes.
Ça doit être joli, je suppose. Comme d'habitude, le projet immobilier doit être fait par des artistes avertis.
C'est pas forcément très laid, mais c'est un peu...
C'est étonnant, ça. C'est pas très moche.
Pas forcément, d'après ce que j'ai pu voir. Mais ne soyons pas caricaturaux. Mais...
Écoute, quand même, les projets immobiliers globaux de la région et les permis de toutes les maisons, c'est quand même...
Non, mais tu as raison. Mais je sais que tu as un goût excellent, Marie. C'est ça.
Ce n'est pas ça, mais disons quelquefois
si,
c'est un
ça.
Peu étrange.
Mais si c'est ça.
Non, parce qu'on peut pas dire que le goût,
si,
c'est chacun
goût.
A un goût différent.
Mais on comprend très bien ce que tu veux dire. De toute manière, la notion même de décoration, d'ameublement sur le Larzac. Moi, c'est un endroit, j'ai pas envie qu'on y touche. L'ameublement du Larzac.
Mais alors,
moi,
je vais faire l'avocat du diable. Est-ce que c'est pas aussi un truc un peu réac de dire on a ça, il faut pas toucher, etc. C'était mieux avant et tout. D'après les gens qui sont pro-golf, je ne suis pas pro-golf, je le précise. Mais...
C'est parce que tu es trop jeune encore, ça.
Oui.
ça va arriver.
si, c'est agréable de jouer au golf. Non, mais c'est aussi l'occasion de faire vivre des gens au pays. Je veux dire, des jeunes qui vivent là-bas dans le coin, ça peut être peut-être l'occasion.
L'argument, ça fournit du taf, donc faut le faire. Je suis désolé, moi, je prends le problème dans l'autre sens. Si c'est pourri, on le fait pas, tant pis pour les emplois.
L'Arzac, plutôt que faire
du diable
golf,
est mort.
Ouais, grave.
Avec des vieux bourgeois croulants qui vont aller nous polluer les trucs.
Oh, la caricature.
Non, c'est vrai, excuse-moi.
Mais pas seulement croulant, blindé et croulant.
Hein.
Bon, ils vont arriver en hélicoptère.
Le Larzac, c'est merveilleux. Tu fais un truc, ça existe déjà. Équestre de luxe avec un hébergement, effectivement, mais qui correspond au truc, avec des trucs un peu trop glaudis ou je sais pas quoi, dans de la pierre. T'attires les mêmes gens, le même pognon, et tu bousilles pas l'endroit. Mais ça, bon, il faut avoir un peu d'imagination. Ce qui manque, apparemment...
Et puis si, la flotte,
aussi, pour faire des conneries,
flotte, les problèmes de flotte. Problème,
et d'assainissement, bon. Etc. D'approvisionnement en tout genre et tout. Mais bon, alors, on est au bord de l'autoroute. Alors
ce projet, il y avait plusieurs délibérés qui étaient en cours, hein, des délibérés relatifs à cette affaire. Grosso modo, la plupart étaient pas très favorables aux promoteurs. Eh bien, la juridiction administrative vient de donner plutôt des avis favorables aux promoteurs. Grosso modo, les requêtes présentées par les époux, qui s'appellent monsieur et madame Desquien, voisins du terrain sur lequel la résidence et le golf sont projetés par l'association de sauvegarde des Baumettes, demandaient l'annulation du permis de construire qui a quand même été accordé, hein, déjà en septembre 2007 par la municipalité Priva.
Priva, oui, c'est lui. Hein.
Les juges administratifs ont en outre annulé l'arrêté municipal pris en juillet 2008 par le nouveau maire de l'Hospitalet, qui est Olivier Sicre, qui demandait le rejet pur et simple de la demande de permis de construire. Rejeté, les parties perdantes ont été condamnées à payer les frais de justice aux promoteurs, 600 euros pour les voisins, 1200 pour la mairie, et ils ont un mois aujourd'hui pour faire appel. Alors théoriquement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le projet de résidence touristique et de golf est à nouveau sur les rails aux Baumettes. Le président de la boîte là, qui fait ça, M. Monsonego, estimait fin 2008 à 300 000 euros les frais déjà engagés par sa société. Une somme que la municipalité actuelle ne voudrait pas être obligée, évidemment, de rembourser.
Merci Georges Prival, l'ancien maire, qui a foutu cette merde-là. Hein,
quand bien même, elle ne serait pas franchement favorable au projet. Le journaliste de Midi Libre, qui nous a donné cette source, a essayé de contacter un peu tous les tierces sur cette histoire. Ni le maire Sicre, ni le patron de l'entreprise n'ont souhaité réagir.
Ben non, parce que c'est hyper délicat et il faut faire appel, c'est des frais de justice, etc. Mais moi, je trouve ça quand même, on est dans un drôle de pays, quoi. Quand une population, une mairie est contre un projet qui est destructeur, eh bien, tout le monde s'en fout et c'est le pognon qui gagne. Quoi,
ben, ce sera à nous, une fois de plus, d'aller leur dire non.
Ah ben, il faut que les gens du Larzac se remobilisent.
Mais pas que du Larzac,
région en général.
C'est intéressant parce que tu parles de démocratie. Je voulais juste deux secondes dire que donc, les enquêtes publiques de Arnac et Mélag, pour parler de l'éolien industriel, Arnac et Mélag, 19 éoliennes, avis favorable, et Fondamente, 11 éoliennes. Là, j'ai plus de chiffres, 319 personnes qui ont écrit pour dire qu'ils étaient contre, 4 personnes pour dire qu'ils étaient pour, et évidemment, comme d'habitude, un avis favorable du commissaire enquêteur. Donc on attend maintenant l'obtention du permis de construire de madame la préfète.
Non, mais on se demande à quoi servent ces enquêtes.
Les enquêtes publiques, eh bien, écoute, a priori, à rien. Puisque on a eu sur l'Aveyron un seul résultat négatif, avis défavorable, depuis apparemment 10 ans. Quoi. C'est toujours favorable, même s'il y a 1000 personnes qui disent non, on n'en veut pas. Voilà.
Eh ben. Vous êtes toujours. Pardon,
Il y a les urnes. Il y a les urnes après.
Il y a les urnes, jusqu'à un certain stade.
Jusqu'à un certain stade, mais enfin, c'est le seul truc qu'on a comme arme par rapport à tout ça. Je pense à toutes ces municipalités qui se sont plutôt favorables au projet éolien. Hein,
tout
qui,
à fait.
Ça ramène plein de fric. On n'arrêtera pas de le dire à cette antenne. Oui, ça ramène beaucoup d'argent.
On a vu.
Apparemment, parce que c'est, à mon avis, ils vont se faire avoir dans le temps. C'est du très court terme.
C'est du 20 ans. C'est-à-dire que les éoliennes, on le sait très bien, soit elles sont rénovées, soit elles sont démantelées.
Mais quand même, on a vu, il y a 2 semaines maintenant, le fabuleux article de des maires de Saint-Rome-de-Tarn et des Costes-Gozon qui ont affirmé avec un aplomb fabuleux que c'était leur contribution au développement durable. Alors écoutez, monsieur et madame le maire des Costes-Gozon et de Saint-Rome-de-Tarn, bravo pour votre philanthropie. C'est merveilleux, quoi.
Ça nous fait vibrer à peu près
voilà,
autant que...
Voilà, j'ai été ému de lire votre article.
Il faut dire que quand il faudra payer les pots cassés, ils ne seront plus là, quoi.
Pour l'avenir de leurs enfants, écoutez, merci, quoi.
Ça nous... Ça nous fait à peu près autant vibrer que quand les grands pontes du département nous parlent de désenclavement. Je sais pas, eux, ils ont envie d'être désenclavés, nous pas forcément. On est peut-être venus d'ailleurs habiter ici parce qu'on aimait bien être enclavés, quoi. C'est peut-être très bête des fois, les trucs. Ah, c'est pas mal l'enclavement. Hein. On revient à l'histoire des emplois.
Tu t'en rends pas compte.
On revient à l'histoire des emplois de tout à l'heure. Vaut-il mieux des emplois, quitte à faire n'importe quoi, ou l'inverse? Chacun se fera une opinion. Il nous reste 3 minutes avant la petite coupure musicale pendant laquelle je vous rappelle que vous pouvez nous contacter au 05 65. 49 29 94. Surtout que le débat qui va suivre et qui touche au Front National mérite probablement d'être assez intéressant. D'ici là, on fait 3 petites minutes sur un truc qui nous fait quand même tous à beaucoup rigoler, qui est la guerre des égaux, si on peut dire, mais la multiplication des candidatures à droite. Cette élection présidentielle va être, à mon avis, très drôle. S'ils vont tous au bout, qu'est-ce qu'ils vont faire, tous ces gens-là?
Villepin, Boutin, Morin.
Ah oui, bien
tous
joué.
Les uns.
Les 3.
Les orphelins.
Et c'est bon, hein?
Les aigrefins.
C'est le retour des barbares, alors.
Ils essayent d'arriver à leur fin, mais dans le Canard enchaîné, il y a tout un article là-dessus. Et tous pour un pourcent. Ils font à peine pour l'instant.
Combien, vraiment, 1%?
Un petit pourcent. Et certains ne décollent pas, comme M. Morin, qui fait toujours beaucoup rire, parce que c'est marrant, ces gens qui ont un ego surdimensionné, qui sont persuadés qu'ils vont peut-être pouvoir être président de la République, alors ils n'ont strictement aucune chance.
Mais je ne crois pas qu'ils pensent être président, je ne crois pas.
C'est un peu juste pour négocier des places.
D'abord, il y a la négociation des places. Ensuite, très fortement, un mec comme Morin, il n'est pas fou. Il sait très bien que Bayrou va y aller. Il sait très bien qu'il n'y a pas l'espace. À moins d'être complètement idiot. Bon, on peut se poser la question, mais à moins d'être complètement idiot, Monsieur Morin, si vous nous écoutez. Le problème, c'est que le type, il a un truc à négocier, bien évidemment. Et entre autres, il se dit, au deuxième tour, il va falloir quand même discuter un petit peu. Bon, qu'est-ce qui va se passer au deuxième tour? Est-ce qu'il a envie de repartir dans un gouvernement Sarkozy?
Oui, mais quelqu'un qui fait 0,2% ou etc., ça ne pèse rien.
Et si c'était de l'objectif d'une partie de la droite française de planter Sarkozy? Personne ne veut envisager cette stratégie-là. Moi, je suis convaincu qu'il y a une bonne partie de la droite qui va aider la gauche à planter Sarkozy. J'en suis convaincu.
Ouais.
Ah, mais oulala, et sans faire des grands...
C'est du billard à trois bandes, c'est que la situation est tellement dramatique qu'on préfère refiler le manche aux socialistes.
Mais non, il y a des gens à droite qui détestent Sarkozy. Il y a une partie de la droite française, gaullienne, ainsi de suite, qui déteste Sarkozy. Et dans le même cas de figure...
C'est gentil ce que tu dis. Hein.
Dans le même cas de figure, mais il n'y a pas que la droite d'ailleurs, mais dans le même cas de figure, mais il lui reproche de brader la France. C'est-à-dire qu'il y a quand même cet élément très important, au-delà de tout aspect politique, politicienne ou d'aspect même économique, parce qu'ils vont à peu près tous dans le même sens, ce sont des libéraux, voire des ultralibéraux. C'est pas là-dessus. D'ailleurs, c'est souvent ceux qui sont curieusement le plus au centre, qui sont le plus ultralibéraux. Les anciens se souviendront que Giscard, qui était dans un parti qui s'appelait l'UDF à l'époque et qui était censé être à la gauche du RPR, représenté par Jacques Chirac, était en réalité, de par son côté un peu catho et compagnie, beaucoup plus à droite et beaucoup plus marqué à droite et beaucoup plus libéral d'ailleurs que le RPR.
Mais qu'est-ce que c'est que ces mélanges, le catho et la droite?
Attends, je vais continuer. Très important. Bah, tu sais, c'est, si tu t'intéresses à l'histoire politique française et pas qu'en France d'ailleurs, c'est également le cas en Allemagne, les sociaux-démocrates ou des gens comme ça sont très proches, quelqu'un comme Kohl était très proche de ce qu'on appelait la droite chrétienne, et cette droite chrétienne en France est très représentée et elle pèse un poids extrêmement important dans la doctrine et dans l'idéologie gaulliste. Ça, c'est juste une histoire d'histoire de la politique.
Tout à fait, mais il y a aussi de la gauche chrétienne, il y a aussi du communiste chrétien.
Mais
peu. Pas beaucoup,
mais il y en a. On désingue les flics.
Dans le Sud, on est beaucoup amis avec le curé et avec on vote traditionnellement communiste et on est amis avec le curé, enfin la génération précédente.
Ne mélangeons pas la logique des prêtres ouvriers avec la religion d'une manière générale, ce sont deux choses très différentes. Voilà. Hein, voilà.
Mais pour reprendre ce que tu disais, Gilles, c'est vrai qu'au niveau politique, c'est important, c'est une histoire de chiffres, hein, de pourcentage, il vaut mieux être bien, aller à la messe et tout, même Chirac qui n'était pas franchement quelqu'un de très, je crois, pratiquant.
Après la corona, il allait à la messe tous les
dimanches. Voilà, après les escortes, il allait à la messe, il n'y avait pas de problème, quoi, je veux dire. Et il loupait jamais la messe dans le petit bled là-bas près du fort de Brégançon. C'est incontournable pour plaire à une certaine catégorie de personnes.
Oui,
à l'élite, dis les choses clairement.
Qui, même s'il ne va pas à la messe, ben, quand même, vaut mieux être de ce côté-là, on ne sait jamais. Hein. C'est sulfureux, ça reste sulfureux.
C'est notre culture, tout simplement. Hein, voilà,
la laïcité,
ça fait partie de notre...
tout ça, c'est des choses qui font peur, même à toute une catégorie de gens. C'est dans l'inconscient collectif, entre ce qui s'est passé pendant la Révolution, etc. Enfin, voilà, quoi, hein, on coupait les têtes pour moins que ça. Quoi.
Voilà. Donc, pour revenir à la droite, effectivement, bon, Bayrou, qui prend un petit peu le flambeau de cette droite, on va dire, entre guillemets, chrétienne, est très différent. Les gens disent, oui, mais c'est stupide, la multiplication des candidatures. Il faut bien comprendre qu'idéologiquement, ces gens sont arrêtés sur des positions relativement différentes et qu'on peut en aucun cas comparer les positions de François Bayrou et celles de Dominique de Villepin, par exemple. Sont deux gens de droite qui ont l'air très proches dans leurs idées, parce qu'évidemment, avec l'espèce de renvoi de la télévision, des médias en général qui résument la politique à des idées complètement basiques, on ne va pas pousser les choses très loin. Quelqu'un comme de Villepin est un gaulliste historique, est un type quand même qui a pris la position qu'il
Galouzeau
a imposée.
Galouzeau de Villepin, s'il vous plaît.
Ben, c'est un diplomate, tout simplement. C'est un type qui vient des hautes sphères, qui a commencé par les hautes sphères.
Il porte beau.
Et il porte beau. Et puis la diplomatie, c'est une autre école. La politique, en réalité, la géopolitique, elle se fait en diplomatie. Elle ne se fait pas dans la politique. C'est des gens qui ont un contrôle sur la globalité, là où le politique a contrôle sur son petit État en France, en Allemagne.
En tout cas, au niveau de l'image, il représenterait mieux la France que Sarkozy.
Ouais,
tu veux dire qu'il est moins moche? Il est plus grand, surtout.
Plus grand, plus...
J'ai revu une image de Mitterrand avec Kohl. C'est vrai qu'on a des petits... Bon, on a eu Chirac, qui était... Et là, mais c'est vrai qu'on... C'est... on a du rase-motte un peu.
C'était hein, mignon leur poignée de main à l'école quand ils se tenaient par la main, Mitterrand École. Nostalgie, nostalgie.
L'image est importante hein, quand même.
Pourquoi c'est la construction de l'Europe
hein. Oui, non, mais il faut qu'on finisse là, ça y est.
Bah, on va écouter de la musique, non?
Non, mais je sais pas, je voulais quand même terminer sur Beyrouth qui s'est planté grave. Beyrouth Secours, vraiment, il fait toute une allocution sur acheter français.
11% dans les derniers sondages, plus 4 points.
Ouais, mais il a personne derrière lui, tout le monde l'a laissé tomber. Quoi,
on dit la même chose de Marine Le Pen, on dit la même chose, ils n'ont personne derrière eux, Mélenchon n'a personne derrière lui.
C'est pas vrai. Beyrouth, il a un désert, quoi, il n'y a rien à côté. Et il n'a pas arrêté de démarrer, alors sa grande phrase là pour démarrer sa campagne, c'est acheter français, quoi. Hein, vraiment, consommer français, acheter français. Et il est parti en Nourdi Quattro, sous les caméras, ça fait marrer tout le monde, parce que tu dis acheter français et tu pars dans une
culture allemande. Eh bien, il a rectifié, t'as des infos qui sont trop vieilles, il a rectifié hier.
Ah oui, c'est pas lui. C'est comme la Porsche.
Il a reconnu l'erreur, je crois qu'il est prêt à la vendre. Il va sortir une vieille R5 ou un vieux truc qui traîne dans son garage.
C'est là où on voit, gouverner, c'est prévoir. Il fallait qu'il vende son Audi Quattro avant de balancer sa campagne.
Ce n'est pas du gouvernement, ce n'est que de l'image. C'est-à-dire, partir du moment où, dans la moindre de ses déclarations ou de ses décisions, on est obligé d'anticiper, de penser à ce que les gens vont en penser, il n'y a plus de notion de démocratie possible.
Il a eu 5 ans pour y penser.
Tu vois, finalement, t'es vachement plus communicant que nous, toi, finalement. Hein, quand on regarde ça, bien camouflé quand même le jeune homme. Allez, qu'est-ce que tu nous fais écouter, Gilles? Enfin, qu'est-ce que vous nous faites écouter comme musique?
Ça a été choisi par notre camarade Philippe, notre technicien chéri. Ce sont les grandes bouches. Alors, ce n'est pas les grosses têtes ni les grandes gueules, c'est les grandes bouches. Le bal républicain, c'est un groupe français, francophone, qui nous chante l'européenne.
Allez, à tout de suite.
Les autos, feu rouge, elle se glisse avec sa bouteille d'eau et son torchon. Comme une pro de la pub, elle esquisse d'un trait sur la vitre un cœur en savon.
On lui a dit tu es européenne, c'était si beau qu'elle a pu le croire. C'était pas vrai, c'est pas de veine, il y a des rêves qu'il faudrait pas avoir.
Même si on sait qu'il y a plus gras que soi, même si on sait les salauds qui prospèrent, on baisse les yeux devant celle qui a moins que nous, on attend le feu vert.
On lui a dit tu es européenne, c'était si beau un nouvel été. On a menti et c'est pas de veine, il y a des rêves qu'il faudrait pas donner.
D'un coup d'essuie-glace, du carrefour ou une autre a pris sa place. C'est qu'elle a dû à laver des pare-brise, faire fortune au pays de la libre entreprise.
Et c'est pour ça que tous les soirs elle arpente les trottoirs sous l'éclat de l'enseigne luminescente d'une station éléphant bleu. On lui a dit tu es européenne, c'était si beau qu'elle a pu le croire. C'était pas vrai, c'est pas de veine, il y a des rêves qu'il faudrait pas avoir. On lui a dit tu es européenne, c'était si beau un nouvel été. On a menti et c'est pas de veine, il y a des rêves qu'il faudrait pas donner.
Sympathique ce petit morceau de bord de mer.
Voilà, c'est un petit côté breton, je sais pas.
Ça donne envie d'aller à la pêche aux crevettes.
Ou à la pêche aux moules.
Ça fait longtemps que vous avez pas été en Bretagne, les gars.
Ouais,
là.
Il n'y a plus de crevettes en Bretagne, c'est vrai, pardon. À la pêche aux algues. Retour sur les tontons flingueurs, 10h38, de 19h38, si c'est la rediffusion pour vous. Alors, un petit mot vite fait à un auditeur qui nous a fait suivre un petit courrier par mail, vous aussi, bien évidemment, www.radiosaintafrique.com. Vous avez le site de la radio qui est tout nouveau et sur lequel vous pourrez communiquer avec nous-mêmes, si vous le souhaitez, on vous répondra
un
avec
petit
plaisir.
Mail, cool. Voilà. Ouais.
Alors, il nous disait, suite à la remarque de la semaine dernière sur la dette, je voulais vous rappeler que l'Islande, il y a quelque temps, a refusé de payer sa dette. Personne n'en a parlé. Et je n'en sais d'ailleurs pas beaucoup plus depuis. Peut-être pourriez-vous en parler. Et c'est signé Simon. Mais écoute, Simon, si tu nous écoutes, et visiblement c'est le cas d'abord, bonjour, merci pour ton petit courrier.
Bonjour Simon.
Salut Simon.
Petite précision, Simon, on a parlé deux fois quand même de l'Islande il y a quelques semaines en arrière, quelques mois en arrière déjà. Alors on en a parlé, simplement évidemment on a cité l'Islande, rappelons que l'Islande est un pays qui a fait un bras d'honneur au moment de rembourser sa dette suite à la crise des subprimes, qui a fait un bras d'honneur à l'ensemble des financiers. Maintenant on avait expliqué quand même qu'il faut bien relativiser, c'est un pays de 300 000 ou 400 000 habitants, donc c'est beaucoup plus facile.
C'est pas la même échelle.
C'est pas du tout la même échelle, ils étaient beaucoup moins embringués que nous quand même dans l'économie internationale. Il faut bien comprendre qu'ils ont donc fait le choix de ne pas rembourser, de quitter l'euro, grosso modo, si on peut dire ça comme
ils ont fait un bras d'honneur.
Voilà, et ils ont, dans l'enchaînement, fait ce qu'on appelle une constituante pour revoir intégralement leur organisation démocratique, on va dire. Mais là où c'est très intéressant, c'est qu'elle intègre des paramètres qu'on appelle quand même très fortement de nos voeux. Les notions de décroissance, tout ça font partie des réflexions. Les Islandais sont allés très très loin en arrière. Donc Simon, on aura l'occasion de revenir sur ce sujet
et
très bientôt.
Ils ont été au-delà de la parité, puisque c'est les femmes qui ont pris le pouvoir là-bas, qui ont dit de toute façon les hommes nous ont mis dans la panade, ils sont incapables de gérer, nous on va gérer, et apparemment elles gèrent mieux que ce qui s'est passé avant, quoi.
Bon, maintenant il y a quelques problèmes, on n'a pas réétudié ce sujet là récemment, par contre on s'engage à le faire parce que c'est en lien direct avec la crise.
Je suis sûr qu'en allant un peu sur internet il peut avoir des précisions.
Il n'y a pas beaucoup d'infos, moi j'avais galéré pour en trouver.
Pour gratter,
il n'y en a pas tant que ça.
Ah là là, il faut envoyer quelqu'un là, il n'y a pas un volontaire.
Il faut taper.
C'est vachement intéressant.
Ah,
s'il y a déjà un pays qui a fait qui a changé un peu de modèle, etc., on pourrait aller regarder
l'assemblement de mots-clés qui permet de trouver le plus d'infos, c'est Constituante Islande, pour ceux que ça intéresse. Dans Google, vous tapez Constituante et plus Islande et vous aurez des informations sur ce qui s'est passé dans ce pays.
Ouais, meilleur que nous, hein, parce qu'on n'est pas très très bon à ce niveau-là, il faut le reconnaître.
La semaine dernière, on avait au cours de nos discussions balancé un peu une phrase comme ça, enfin j'avais balancé d'ailleurs une phrase qui a amené quelques réactions et c'est extrêmement positif. J'avais dit l'extrême droite se satisfait totalement du monde du business. Pour remettre un petit peu dans le contexte, il s'agissait d'essayer de comprendre le danger réel finalement de l'extrême droite. Et on comprend bien que cette extrême droite française, elle ne pourrait être élue entre guillemets, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui encore, que si il pouvait obtenir un tout petit peu plus de côté respectable, c'est-à-dire le monde des affaires, le monde des médias. Si tout ce petit monde commençait finalement à trouver que leur discours n'était pas si dramatique que ça, là on pourrait sérieusement commencer à s'inquiéter.
On est un pays de commerçants hein, quand même.
Voilà, voilà.
Donc si le commerce va, tout va. Hein. Donc c'est ça qui inquiète un peu les gens, c'est qu'il faut faire repartir le business et tout. Et donc un parti qui serait pas trop désagréable à ce niveau-là, on pourrait peut-être voter pour lui, puisqu'on n'a jamais fait l'essai. Hein, c'est ça.
Exactement. Le truc, c'est pour
c'est
les nouvelles générations, on n'a jamais fait l'essai.
Eh oui, personne. Heureusement, d'ailleurs, sauf certaines villes quand même. Moi, je rappelle toujours, c'est que certaines villes, quatre villes en France, ont fait le choix du Front National à un moment donné, et ça a été quatre fois, mais des plantages incroyables avec des magouilles. Ces gens-là sont incapables de gérer. Alors, ils ont un discours qui est très populiste, hein, qui peut faire du bien à certaines personnes, leur mettre un petit peu de pommade et les brosser dans le sens du poil. Mais gaffe, c'est des gens totalement incompétents et qui ont d'autres choses derrière la tête.
Je rappelle que si vous voulez réagir, vous nous appelez au 05 65 49 29 94. 05 65 49 29 94.
Elle apprend vite, hein. C'est royal.
Mais non, mais elle est extrêmement bonne.
Quel métier, Marie. Notre nièce parisienne, je le rappelle, pour ceux qui se lèveraient...
Oh non, elle est à Véronèse maintenant.
Non, j'ai écouté. Je ne suis pas là depuis 8 générations, donc...
Tu promets l'accent un peu quand même, hein. Eh oh. Il n'y a que des parisiennes, cette antenne là-haut.
Non, il y a un mot que je sais bien dire, c'est manger.
Manger. On revient. Alors, le problème.
Ça va être mal pris.
La reconnaissance du monde des affaires et des médias pour le Front National, elle peut paraître compliquée. Pourquoi ? Parce que leur doctrine aujourd'hui, c'est on défend les travailleurs et nous sommes anti-libéraux. Et c'est là que le piège est assez énorme. Être anti-libéral aujourd'hui, effectivement, ça paraît complètement décalé. Il n'y a qu'à voir comment les médias raillent en permanence les positions de Mélenchon en les assimilant, en les mélangeant d'ailleurs. Avec celle de Le Pen, puisqu'ils disent à peu près la même chose, grosso modo.
C'est deux fronts. Hein.
C'est deux fronts, voilà. Nous défendons le travailleur et nous sommes anti-libéraux. Donc, un grand nombre de travailleurs qui ont basculé déjà il y a 10, 15, 20 ans du Parti communiste vers l'extrême droite peuvent être totalement tentés en disant finalement c'est la même politique, donc on peut rester où on est. Malheureusement, le problème, c'est que ce discours, puisque la crise est escalée actuellement, est en train de trouver une oreille d'une façon plus large que le monde des travailleurs. C'est-à-dire qu'il y a maintenant des gens qui sont des alternatifs, plutôt marqués à gauche en général, qui commencent à dire oui, mais alors vu le bordel ambiant, finalement, il faut aller plus radical, parce que ce discours-là, c'est celui qu'on a envie d'entendre aujourd'hui. Oui, sortons de l'Europe, oui, sortons de l'euro. Alors, là, ce qui nous intéresse, nous, dans le quart d'heure qui vient, c'est d'essayer de faire comprendre, de comprendre d'abord nous-mêmes, et puis d'essayer de faire comprendre que c'est pas vrai, le Front National n'est pas un parti anti-libéral. Le Front National est le mouvement le plus libéral, le plus ultra-libéral qui soit, ce qui sous-entendrait une connivence potentielle avec le monde des affaires. Et là, la seule chose qu'on ait trouvée pour démontrer ça, c'est de repartir un petit peu dans le passé et de s'intéresser à un excellent dossier qui a été fait dans le journal... je vais y arriver, communiste, aide-moi, l'Humanité. Dans l'Humanité dimanche.
C'est un mot qu'on n'utilise plus beaucoup.
Évidemment, est marqué par le résistance. On sait que la résistance, quand même, était quelque chose que s'était approprié les communistes. Donc, c'est normal que l'Humanité défende.
Le PC faisait 25% à la Libération. Voilà. Il faut quand même le rappeler qu'il y avait beaucoup de communistes dans les maquis et pas beaucoup de fascistes. Quoi. Ils étaient plutôt de l'autre côté.
Avant de démontrer, si vous voulez, de démontrer quand même qu'il y a une vraie connivence potentiel entre l'extrême droite et le milieu du business, on va rappeler un petit peu que dans l'histoire, Pinochet au Chili, je le dis souvent, c'est pas grave, je préfère être redondant, Pinochet au Chili a été mis en place par des gens qui s'appelaient les Chicago Boys, qui venaient de la faculté de Chicago, qui étaient des ultra-libéraux, qui s'appuyaient sur les doctrines, je le répète, de Milton Friedman, et qui défendaient une politique qui est exactement identique à celle que nous vivons aujourd'hui. Nous étions dans les années 1955. On leur a donné les moyens de foutre en l'air Allende, de l'assassiner et de tenter avec Pinochet l'application ultime. C'était quoi ? C'était un gouvernement d'extrême droite. Un démantèlement intégral de tout ce qui touche à la protection sociale et aux services publics.
Très chrétien aussi, il faut le dire.
Très chrétien aussi. En 10 ans de temps,
Marine, elle n'est pas comme ça, enfin.
Attends, je rappelle
Marine.
Juste ça.
On va y venir.
Là, je déconne pas là. En 10 ans de temps, Pinochet a coulé le Chili, ça a été une catastrophe, les Chicago Boys sont rentrés dans leur pénate et nous n'en avons plus entendu parler jusqu'à un monsieur comme Madeleine, qui est revenu avec ces théories-là dans les années 1985-90. Pendant
Madeleine,
40 ans, il ressort un petit peu. Pendant 40 ans, cette doctrine-là a été effacée complètement. Maintenant, dans l'histoire de France, en 1940, Gilles, qu'est-ce qui s'est passé entre le business et l'extrême droite, si on peut dire ? Il y a des gens qui ont soutenu le business, on peut en citer certains.
J'y étais pas. Hein.
On en parlait hier pendant la préparation.
Comme si j'avais vécu ça. Non, je suis quand même pas aussi vieux que ça.
Non, je te tends la perche. Après, on va dire que je suis tout seul à parler.
Vas-y.
Quelle entreprise, par exemple, où il n'y a eu aucun problème à travailler avec les nazis ?
On apprend. Maintenant, ça sort un petit peu. Tiens, il y avait tout un document sur France 3 hier, je crois, par rapport aux grandes entreprises automobiles qui ont collaboré ou pas. On apprend, il y a tout un truc sur la famille Renault.
Attention, il y a un procès en cours.
Je sais. Non, mais je dis les faits, là. Je ne prends pas parti. Et apparemment, la famille se bat pour essayer de réhabiliter le grand-père, mais qui aurait peut-être un petit
comme
peu...
Comme par hasard, en ce moment, maintenant.
Voilà.
Tu n'avais pas d'autres noms de boîtes
Citroën, qui aussi n'était pas évident. Il y avait des rôles un peu bizarres. En revanche, Peugeot avait clairement pris le maquis et ils avaient saboté des chaînes, etc. Il y a des gens qui avaient pris radicalement parti et d'autres qui étaient un petit peu le cul entre deux chaises attendant. Et puis, il y a d'autres boîtes comme L'Oréal, par exemple.
La fameuse boîte L'Oréal
qui a fait fortune et qui a financé tous les partis politiques depuis la Libération, à l'époque, avait un petit peu pactisé, je crois, avec Vichy, avec l'Allemagne et tout ça, sans problème. Et puis, une boîte très connue, moi, que je trouve ça très laid. D'ailleurs, je ne comprends pas que les femmes achètent du LV machin avec LV, là, tu sais.
LV machin, les trucs
en plastique. Là, ces super sacs Richeton, Snob, machin. Ah ouais. Hein, ouais, c'est une célèbre marque de bagages. Eh bien, ces gens-là ont, à l'époque, paraît-il, d'après les historiens, d'après, il y a toujours des polémiques, parce que comme ils se sont fait une super place au soleil, là, maintenant, c'est un peu difficile de reparler du passé. Mais alors, le business avait très bien marché sous Vichy et...
On peut prendre l'exemple, par exemple, de l'opticien Lissac, dont le slogan était « Lissac, pas Isaac ».
Non.
Si, véridique.
Ah oui, 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 oui.
Véridique, sans aucun problème. On peut les citer par dizaines, les entreprises qui n'ont eu aucun problème à faire du business avec l'extrême droite. Aucun.
Moi qui n'y connais rien et qui vois rien, j'avais regardé le documentaire qui était pas
mal
foutu.
Il faut des lunettes, donc.
Sur... Oh là 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 là, mais tu es jaloux.
Ah mais non, c'est l'Issac, c'est pour ça.
Ah, l'Issac, oh là.
Bip.
Excusez-moi. Excusez-moi, il y a encore un.
Elle ne suit pas. Hein.
Je ne suis pas.
Alors, tu voulais
non,
dire quoi, toi ?
Non, non, ouais. Un truc qui m'avait. Peut-être les plus vieux, c'est pas Gilles, le savait. sur le documentaire sur Hitler qui était passé sur la 2 il y a quelques semaines, qui était assez bien foutu,
bien
franchement.
Foutu, ouais.
Et donc il y avait donc Hugo Boss.
Hugo Boss, absolument.
Mais voilà, moi je suis tombée des nues. Hugo Boss qui avait fait le dessin des. Enfin, c'était les jeunesses hitlériennes au début.
Des costumes.
Et après, carrément, des SS du costume. Mais d'ailleurs, c'est vrai qu'il est très élégant, le costume des SS et des SA, etc. Et donc voilà, Hugo Boss.
C'était saillant, hein.
C'était très saillant. Et ça continue. Mais tu vois, t'as un costume Hugo Boss, quoi. C'est, tu te la joues quand même. Waouh, ça m'a.
Ouais.
Et oui, non, mais on pourrait en citer. On va pas passer une demi-heure à citer tout le monde.
Et puis, on va pas passer sa vie non plus à justifier ce que les grands-parents ont fait ou pas.
Exactement.
Mais normalement, attends, tu fais
un cinquième, un milliardième de trucs comme ça. Aujourd'hui, ta boîte, elle coule. Donc
mais
c'est ça qui est étonnant.
Ouais.
Petite précision sur le procès Renault en cours. Effectivement, tu disais les petits enfants veulent réhabiliter le grand-père. Ça arrive à un curieux moment. C'est même un petit peu plus complexe que ça. C'est quand même avant tout une histoire de gros sous. C'est-à-dire que l'idée est la suivante. Alors le jugement est en cours, donc évidemment, on ne va pas se prononcer. On va juste vous donner les billes. Les petits enfants disent oui, mais voilà, notre grand-père a été accusé de collaboration et à la fin de la guerre, ça a justifié qu'on nationalise l'entreprise. Pour nous, ça a été une expropriation,
une spoliation.
Donc aujourd'hui, l'État français doit rembourser
renvoyer
l'entreprise.
Le renvoyer
dans le privé.
Absolument,
c'est important de préciser quand même qu'il y en a, si jamais la justice se décide à leur donner raison, c'est 40 milliards que l'État va devoir rembourser.
Tiens.
Ça ressemblerait pas à une privatisation déguisée, l'histoire, là ?
C'est la dette qui va être contente.
C'est un truc de fou. Bon, passons, voilà, vous ferez une opinion. On revient à notre sujet principal. Donc voilà, pas de problème, l'extrême droite se satisfait parfaitement du business et inversement, le business, lui, l'argent n'a pas d'odeur, on va le chercher où il est. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui peut nous faire peur finalement dans le Front National ? C'est d'abord, bon, on a bien compris...
Même pas peur.
Non, on a bien compris, aujourd'hui, la seule chance pour eux, c'est d'être respectables s'ils veulent être élus un jour et puis donner l'impression qu'ils peuvent gouverner. Donc on vient de voir que sur la partie économique, à part cette espèce de mistigrie comme quoi ils soutiendraient les ouvriers, rassurez-vous, Sarkozy, rien vu à côté, c'était de la rigolade.
Et là, il faut rappeler les fortunes captées de la famille Le Pen,
ce soir,
etc. Quoi, hein.
France 2 ou France 3, 22h30, documentaire Marine Le Pen, l'héritière.
Voilà. C'est un truc qu'on ne peut pas reprocher à Mélenchon, ça, en revanche, tu vois, par exemple.
Voilà, c'est toute la différence.
C'est quand même la grosse différence. C'est-à-dire que les ouvriers qui pensent que les Le Pen vont faire du social se mettent le doigt dans l'œil, mais alors jusqu'à l'omoplate, parce que, effectivement, ce sont quand même des grands bourgeois pleins de thunes, et c'est pour ça qu'ils sont encore là, parce que le Front National lui-même est dans le rouge. Ils ont été obligés de vendre le siège social dit le paquebot, parce qu'ils avaient les huissiers au cul et qu'ils ne remboursaient pas leurs dettes. Il faut quand même le savoir, quoi.
Alors la remontée du Front National, la montée entre guillemets du Front National est très différente de celle de Jean-Marie Le Pen à l'époque, très très différente de ce qui s'est passé. Parce qu'en réalité, il y a un ensemble de faits concomitants
Marine avec un bandeau sur l'œil, elle est nettement moins sexy.
Ouais, moins sympa.
Il y a un nombre de faits concomitants qui peuvent être un peu plus inquiétants. Alors, on peut citer la remontée des extrémismes, des extrémismes cathos, et là on est bien obligé de le dire, on le voit par rapport à la pièce Golgotha. Bon, je me suis pas fait d'opinion sur Golgotha Picnic, je l'ai pas vu.
Et pas que, il y a plusieurs. Là en ce moment ils sont dans la rue, il y a 2000 personnes en gros avec le chapelet à la main qui sont dans la rue et qui dès qu'il y a le moindre truc manifestent.
Aura l'occasion de développer ça dans une prochaine émission en expliquant la candidature de Christine Boutin, parce qu'il faudra expliquer un peu qui est Christine Boutin et qui elle représente. Mais n'oublions quand même pas que tout ça c'est parti il y a un bon petit moment, avant les attentats de 2001 aux États-Unis, les néocons là-bas, les néoconservateurs avaient fait un super projet qui s'appelait, j'en ai parlé déjà à cette antenne, le nouveau siècle, le projet de nouveau siècle américain, dans lequel on expliquait très clairement que finalement pour les prochaines années, le programme était le suivant. Nous allons, dans un premier temps, nous associer avec les Juifs pour foutre les Arabes dehors, parce que la grande Babylone, c'est nous. Et derrière tout ça, bien sûr, des intérêts militaires, pétrolifères et compagnie. Alors, en réalité, cette doctrine, depuis les attentats, on est en train de se rendre compte quoi ? On casse de l'arabe partout. Le Front National est devenu non plus, essaye de prendre un discours Non, nous, on n'a jamais été antisémites. On n'est pas antisémites, on est anti-arabes. Le problème, c'est ce qui commence à se poser, c'est que dans la droite française, il y a plein de gens, pareil, ils ne sont pas antisémites. Mais par contre, qu'est-ce qu'ils sont anti-arabes? Et alors, ça nous amène à la respectabilité, au gain de respectabilité du Front National dans les médias. C'est en train de se poser d'une façon totalement progressive. Et on entend des gens sur les plateaux, c'était le cas entre autres chez Calvi l'autre jour avec le fils Klarsfeld, qui sont capables de tenir des discours ahurissants, très proche du Front National.
Mais il dit beaucoup de conneries.
Très proche du Front. Julien Drey était sur le plateau, était effrayé d'une façon monumentale. On a des types comme Zemmour qui peuvent tenir des fois des propos anti-arabes qui seraient...
Elisabeth Lévy aussi.
Elisabeth Lévy qui sont pénalisables. Qui sont pénalisables. Alors la question,
Zemmour a été condamné d'ailleurs.
La question qu'on s'est posée, parce qu'il faut savoir quand même que Alliot, le numéro 2 du Front National et accessoirement le compagnon de Marine Le Pen, rentre d'Israël, rentre d'un voyage en Israël. Il était l'invité sur BFM de Jean-Jacques Bourdin ce matin à 8h30. Et alors, bien évidemment, qu'est-ce qu'il est allé faire là-bas? Officiellement rencontrer des Français qui vivent en Israël pour parler ensemble de leurs préoccupations par rapport aux révolutions du Mont Arabe. Des révolutions, des printemps arabes. Alors on se rend compte qu'il y a une espèce de focalisation qui est en train de se faire et qui va jusqu'à l'association, dans certains cas, de la partie la plus radicale correspondante à celle qui est au pouvoir en Israël actuellement.
Oui, il faut rappeler quand même qu'il y a des partis d'extrême droite...
Au pouvoir, purement et simplement. Et nous avons en France une partie, une petite partie, mais une partie de la communauté juive qui est en train de finalement de rejoindre les théories et les propos, on va dire, au mieux de la droite populaire, au pire du Front National. Et on est en train de voir une espèce d'association, d'alliance, de circonstances qui est en train de se mettre en place, qui fait froid dans l'eau.
Qui était impensable il y a encore quelques années.
Quand on se rappelle les mauvais jeux de mots du père Le Pen, du Rafour crématoire et compagnie, quoi, qui avait choqué énormément toute la communauté.
Alors, il faut quand même bien vous préciser, on l'a déjà dit sur cette antenne, il y a quelque temps, le CRIF, qui est le conseil représentatif
c'est
des institutions...
CRIF, hein,
non, c'est le CRIF, qui est le conseil représentatif des institutions, des institutions juives. Le CRIF, qui est donc présidé par M. Richard Prasquier, qui est plutôt un modéré, lui, mais qui a très peur parce qu'il se fait attaquer par des gens beaucoup plus radicaux en interne. Et Prasquier, récemment, il disait Marine Le Pen, c'est un vrai risque pour la France. Alliot, lui, il a répondu, ça va vous donner une idée des relations, le petit peuple des Français juifs ne se reconnaît pas dans des gens qui prétendent les représenter. C'est-à-dire qu'on est en train de dénier aux juifs les plus modérés en France le droit d'avoir une opinion et de fédérer la communauté juive. C'est très très important cette phrase pour montrer à quel point la radicalisation est en cours. Pas seulement chez les Arabes, pas seulement chez les catholiques, mais également chez la communauté juive.
Ouais, il y a un mouvement que peu de gens connaissent, de jeunes très radicaux, qui s'appelle le Bétard.
Le Bétard, oui.
Il faut rappeler quand même que José Bové, lorsqu'il était revenu d'une entrevue avec Arafat à l'époque, simplement parce qu'il avait été voir Arafat et qu'il était rentré avec un kéfié autour du cou, s'était fait caillasser à l'aéroport en arrivant par le Bétard, quoi, quand même.
Oui, le Bétard très actif de plus en plus dans les manifestations et ainsi de suite, d'une façon assez violente. Hein. C'est un mouvement d'extrême droite, clairement, très marqué.
Mais en Israël, le président qui s'est fait assassiner par un jeune extrémiste. Pareil, Rabin, Isaac Rabin, s'était fait descendre par un jeune extrémiste exalté, très proche des idées d'extrême droite.
Voilà, autre chose qui nous laisse penser, évidemment, que pour le Front National, le contexte est très favorable et que c'est la raison de plus de s'en méfier, c'est l'ensemble de gens qui pètent les plombs en ce moment, d'une façon limite commando militaire à eux tout seuls, qui prennent, qui sont armés, on ne sait pas comment, avec des kalachnikovs, et puis qui partent tirer dans la foule. On a vu ça dans un pays du Nord, on vient de voir ça en Belgique.
Ça, c'est des dingues.
Alors,
ça,
c'est des dingues, mais c'est des pétages de plomb on n'arrive plus, les gens ne se révoltent plus en groupe, donc on va avoir des pétages de plomb, comme c'était un peu suggéré dans la haine de Kassovitch il y a quelques années, des pétages de plomb individuels où vous avez effectivement des barjots, mais comme par hasard, on va se rendre compte à chaque fois que les barjots, ils peuvent avoir quand même des tendances idéologiques assez marquées à l'extrême droite.
Moi, par rapport à tout ce discours-là, tu parles de ces rapprochements, moi j'aimerais voir quand même la confrontation de tous les petits skinhead qui sont proches du Front National, quand même si on les a un peu écartés des images et des caméras à l'heure actuelle.
Avec une perruque blonde, ça serait mieux, hein, voilà. Plusieurs marines.
Mais il y a quand même pas mal de néo-nazes au Front National, ou proches.
Bien sûr.
Et j'aimerais voir le rapprochement qu'il peut y avoir entre ces gens-là et effectivement... une certaine partie des communautés juives un petit peu extrémistes aussi. C'est l'alliance de la carpe et du lapin quand même.
Le problème en ce moment, c'est si tu veux, bien sûr c'est l'alliance de la carpe et du lapin, mais pour terminer très vite puisqu'il nous reste quelques secondes, moi ce qui m'inquiète à titre personnel, c'est qu'ils ont de plus en plus souvent la parole et d'une façon totalement libre dans les médias, et puis pire que ça, on n'entend bientôt plus qu'eux.
C'est une façon aussi, c'est le nini hein, en ce moment, c'est ça, il y a beaucoup de gens, il y a 47%, on le sait, qui veulent ni Hollande ni Sarko. Alors ils se tournent, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Eh bien effectivement, il y a cette blondasse là qui monte et qui peut ne plus faire peur.
Voilà, on va arrêter là pour aujourd'hui, on va vous faire de gros gros bisous, Marie, merci. À la semaine prochaine.
Mais pourquoi vous me dites toujours merci?
C'est un principe. En radio, merci
d'être
Gilles,
venu,
merci aux techniciens.
Vous êtes pas si
merci aux stagiaires, merci à tous. Merci à la mairie de Saint-Afrique, à la pluie, à la météo et à la semaine prochaine, si vous le voulez.
Merci à la semaine prochaine.
Merci à la semaine prochaine.
Mais il connaît pas Raoul, ce mec. Il va avoir un réveil pénible. Je voulais être diplomate à cause de vous tous, éviter que le sang coule, mais maintenant c'est fini. Je vais le travailler en férocité, faire marcher à coups de latte. À ma pogne, je veux le voir. Et je vous promets qu'il demandera pardon. Et on garde à vous.
J'avais oublié, il y a 10% d'amende pour la retard.
Il a osé me frapper. Il se rend pas compte.